vous l'avez bien connu. Vous l'avez bien connu, une émission sans contrainte ni personne, vous l'avez bien connu, proposée par Ambroise Perrin.
Épisode numéro 132, Solarien sur tous les chemins, Johan Ott. Alors, chers amis, bonjour. Alors, c'est pas la peine d'essayer de faire un plan pour structurer notre émission, car il paraît que notre invitée, c'est Madame 100 000 volts. Elle aussi, elle chante, hein, comme Beko. Elle a tellement d'activités annoncées qu'on se dit qu'elle a peur du rien. Et le rien, parce que c'est ce qui nous intrigue dans « Vous l'avez bien connu hein, », c'est le thème un peu récurrent de notre émission. Et l'émission, elle est enregistrée et la semaine prochaine, c'était la semaine dernière, il y avait des pièces de théâtre de Johan Ott, donc on ne va pas vraiment trop en parler puisque nous ne faisons pas vraiment des promotions. Mais la personne que vous avez bien connue, c'est précisément personne. Son nom est personne, comme l'inconnu du Nord Express. Eh bien, notre invitée, c'est comme un soleil. Elle brille partout. Voilà, pour jouer avec notre titre, Solarien sur tous les chemins. Donc, poète, comédienne, dramaturge, chanteuse, prof de lettres et d'histoire, avec un roman qui a le mot soleil aussi dedans. Bonjour, Johan Ott.
Bonjour, Monsieur Perrin.
Oh, oh. Alors, Ambroise. Est-ce que j'ai oublié quelque chose dans ma liste ?
Il ne me semble pas.
Non. Voilà,
vous faites. Je crois que c'est assez complet.
Vous faites la cuisine aussi ? Vous faites des confitures ?
Non. Oh, je cuisine pour ne pas mourir de faim.
Ah, voilà, d'accord. Alors, un de vos livres a donc pour titre, je pensais que vous alliez m'interrompre, c'est « Demain, le soleil ».« Demain, le soleil ». Donc, c'est une métaphore, ça.
Alors, ça, c'est très ancien. Hein. C'est vraiment, vraiment un bouquin qui date.
Voilà.
C'est une aventure de jeunesse, je pense.
Que vous avez raconté.
Alors, non, c'est totalement fictionnel.
Ne sont pas autobiographiques.
Non, c'est totalement fictionnel, ça. Je prends des gamins de Haute-Pierre hein, qui vont rencontrer un gamin d'Erstein. Donc, la rencontre de deux milieux qui, généralement, ne se croisent pas. Ils sont tous déscolarisés pour des raisons diverses. Le gamin qui vient d'Erstein, lui, Charles, il est surdoué, il est harcelé à l'école. Et les gamins de Haute-Pierre, un petit peu caricaturalement, l'école, c'est pas pour eux. Sauf pour Sarah. Sarah, elle veut devenir prof. Donc, elle bosse. Les autres, pas. Donc, qu'est-ce qu'ils vont devenir ? Alors, on est à l'aube de l'année 2000. On est en 1999, donc c'est vraiment le début des téléphones portables et des ordinateurs à la maison. Donc, ils sont pas accrochés à leur téléphone encore, ils ont autre chose à faire.
Ils savent encore lire sur du papier.
En gros, oui, plus ou moins. Mais le but, en tant que vieille prof de lettres que je suis, que j'ai été, c'était de voir ce qu'allaient devenir ces gamins. Donc, le dernier chapitre, on est maintenant, on regarde ce qu'ils sont devenus. Et bien sûr, ils s'en sont bien sortis.
Alors, je reviens au titre « Demain, oui. Le soleil ».
Demain, il fera beau.
Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, il fait moche.
C'est plein d'espoir.
Ah, oui,
mais
ça.
Disons que pour eux, des ados, ils ont juste 18 ans, hein, même pas 18 ans, c'est l'année du bac. Ils ne savent pas encore trop ce qu'ils sont. Mmh. Ils ne sont pas encore tout cuits. Donc, l'avenir les attend. Ils sont en recherche. Ils sont un peu paumés, tous autant qu'ils sont. Qu'est-ce qu'ils vont devenir ? Quel va être leur avenir ? Mais demain, il fera beau.
C'est une fiction.
Oui, total.
Mais en même temps, c'est un truc un peu sociologique.
Oui, bien sûr.
Il y a une analyse.
Bien sûr.
Là. Vous avez étudié un petit peu les trucs des jeunes, comme ça.
Disons que j'ai été prof pendant 40 ans.
Oui.
Alors, j'avais quelques exemples. J'avais quelques exemples.
Voilà, parce que si on parcourt vos livres... Alors, c'est une sacrée bibliothèque que vous avez publiée.
22, le 22e vient d'arriver.
Ah, j'en ai compté 21, justement.
Ah ben, parce que le 22e est là.
Ah ben, voilà. Alors, justement, c'est Memoria.
Oui.
Hein, et alors, c'est un livre qui raconte l'histoire de gens qui sont muets.
Non, 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 il y a un seul.
En tout cas, ils n'arrivent pas à parler.
Si, ils arrivent à parler. Il y en a une seule qui est muette. Il y a 7 générations de femmes. Elles sont toutes les filles les unes des autres parce qu'on part de maintenant et on va remonter jusqu'en 1794. Et c'est le 1er janvier 1794, à Soules-sous-Forêt, qu'on saura pourquoi ces 7 générations de femmes ont eu des problèmes de voix ou de gorge.
Alors c'est un bon sujet pour la radio, hein, les gens qui ont quand même du mal à parler.
Alors ils ont du mal à parler, ou alors pas du tout, mais ça peut être des maladies de Basedow, hein, ça peut être des kystes thyroïdiens. Il va y avoir une muette, il va y avoir une un petit peu aphone de temps en temps, il va y avoir des angines, il va y avoir des maladies de Basedow. Donc des problèmes de gorge ou de voix.
Mais vous n'êtes pas toubib quand même.
Non, mais l'idée m'est venue à partir d'un problème de gorge qui a été le mien. C'était avant le Covid, je ne sais plus exactement quand, mais un mal de gorge qui m'a tenu pendant plus de 6 mois. Pour une chanteuse comédienne, c'est embêtant, mais ça n'affectait pas ma voix. Mais c'était une douleur à hurler, à ne pas dormir. Donc les scanners, les biopsies, les IRM disaient tous la même chose. Il y a quelque chose, mais on ne sait pas quoi. L'ORL était persuadée qu'il s'agissait d'un cancer de la gorge. Moi, ça ne m'arrangeait pas du tout, cette affaire-là.
Oui.
Et au bout de 6 mois...
C'est pas rien.
Voilà, et au bout de 6 mois, ça s'est évaporé. Bon, je touche du bois pourvu que ça ne revienne pas.
Et on ne sait pas pourquoi.
On ne sait pas, on n'a jamais su. C'était une lésion derrière l'amygdale gauche. Il y avait quelque chose, mais bon, personne n'a été capable de me dire ce que c'était. Peut-être que c'était bactérien, on n'en sait rien. Mais
c'est psychosomatique,
non, 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 ça je ne pense pas. Non, non, il y avait vraiment quelque chose. Mais du coup, ça m'a donné l'idée d'inventer une généalogie à ces mots,
vous
M-A-U-X.
L'avez appelé, ah oui.
J'ai mis en mots, M-O-T-S, des mots de femme mis
en donnant comme titre Mémoria.
Mémoria, ben
donc c'est une mémoire.
C'est la mémoire des mots.
Et donc la mémoire familiale.
Oui. Oui.
Mais vous avez tout inventé.
Ah oui, oui.
L'histoire
oui.
De Soules-sous-Forêt.
Oui, oui. Alors, à part le personnage actuel qui a 70 ans comme moi, qui me ressemble comme deux gouttes d'eau, Camille.
Oui, c'est vous.
C'est moi. Mais vraiment. Alors, après, la mère de Camille, la grand-mère, l'arrière-grand-mère et toutes les autres n'ont absolument rien à voir avec ma famille à moi.
Alors, Camille, comment est-ce que vous choisissez les prénoms? Camille, c'est Horace de Corneille, Rome, unique objet de mon ressentiment.
Non,
Rome,
non, mais les noms, je ne les choisis pas vraiment, ils s'imposent.
Ah oui. Mais Camille, parce que vous dites à un moment, parce que j'ai un petit peu parcouru le bouquin quand même, que c'est le pape vient de mourir.
Oui, mais alors ça justement...
C'est à Rome. Donc je me suis dit, vous avez pensé à Camille de Corneille, donc à Rome,
non,
donc
pas du
pape.
Tout, pas du tout. Non. Il ne faut pas aller aussi loin. Non, simplement, j'avais en tête ce bouquin et je n'arrivais pas du tout à m'y mettre hein, parce que je savais que mon éditeur prenait sa retraite et puis je me disais, bon, ben, j'ai plus d'éditeur après, c'est peut-être pas la peine que je l'écrive. À moins de chercher un autre éditeur, évidemment.
Il y a 400 éditeurs en Alsace.
Oui, oui, je sais, et puis il y en a plein. Mais, et puis le pape meurt.
Oui.
Et ça m'a donné le premier chapitre. c'est tout bête. Hein.
Le pape est mort.
Oui, le pape est mort.
Un nouveau pape est appelé à régner. À régner, quel drôle de nom pour le pape. N'aurait-on pas pu l'appeler libellule ou papillon? Ah, je vois que vous n'avez pas compris. Le pape est mort. Un nouveau pape est appelé à régner. Je cite souvent le recueil Paroles de Jacques
Bien Coudert. Sûr.
Voilà,
bien
sûr. Puis avant, on a, voilà. Donc, vos prénoms, vous les prenez au pif comme ça?
Je ne les prends pas au pif. Ils s'imposent.
Il s'impose.
Oui.
Oui. Mais Camille, quand même, c'est... enfin, les prénoms ont toujours quelque chose derrière eux.
Si vous appelez
vos deux bons hommes Rodolphe et Léon, ben, c'est les deux amoureux d'Emma. Enfin, c'est...
Oui, mais je ne cherche pas.
Ah,
je ne cherche pas, il s'impose.
Ah, vous êtes une auteure inspirée.
Bon, je n'appellerais pas ça de l'inspiration. Un moment, le prénom est là. Voilà. Oui. C'est très simple. Hein. Oui. Je suis quelqu'un de très, très simple.
Ah oui, mais alors compliqué quand même, parce qu'avec tout ce que vous faites et tout... Mais, alors justement, parlons de votre simplicité.
Oui.
Il y a certains de vos romans, vous les aviez adaptés en pièces de théâtre.
Huit d'entre eux ont fait l'objet d'une adaptation.
Simplement, c'est quand même pas un truc tout simple que de transformer des phrases... Bon, il faut écrire des dialogues, c'est déjà différent.
Oui, mais comme je suis dramaturge et comédienne et que j'écris pas mal de chansons, Ça se retrouve dans mes romans. Dès la première page, on est dans l'atmosphère avec les personnages et dans le style.
C'est-à-dire que quand vous écrivez vos romans, c'est comme une pièce de théâtre.
Alors, je ne pense pas du tout à une transcription pour le théâtre, mais du coup, ça devient assez facile. Parce que le style est déjà très oral, finalement, très travaillé, mais avec beaucoup d'oralité. Je ne suis pas quelqu'un qui décrit énormément. On est plutôt dans une écriture sonore, rythmée, musicale qui
avance. Des assonances.
Ouais.
Voilà.
Ouais. Donc vous faites... lâche un bouquin à partir du moment où je suis d'accord avec la dernière virgule. Autrement, il ne sort pas.
Ah oui, d'accord. Donc vous aimez Flaubert.
Ah
qui
oui.
Qui a travaillé énormément les assonances. Oui,
bien sûr.
Bien sûr, voilà.
Bien sûr.
Et Céline, le voyage au bout de la nuit. Oui,
on n'en parle même pas.
Oui, oui, c'est ça. Donc, le dialogue, mais est-ce que ce n'est pas une facilité, le dialogue? Parce que Flaubert, il n'en mettait pas trop, quand
alors,
même,
y a
dans,
pas,
dans
y a,
l'éducation
y a,
sentimentale.
Il n'y a pas beaucoup de dialogue dans mes bouquins.
Non.
Mais même quand ce n'est pas dialogué, il y a quelque chose qui fait que c'est dialogable.
Voilà. Alors justement, c'était ça ma question.
Ouais.
Comment vous passez du récit au dialogue du théâtre? Parce qu'au théâtre, c'est, ou alors c'est deux acteurs ou deux actrices... qui lisent des textes, mais ça, c'est embêtant.
Non,
c'est
non,
embêtant.
Ça, c'est... Oui, ça, c'est embêtant. Non, non, oui. Il faut que ce soit vraiment théâtralisé. Mais alors, la plupart des bouquins que j'ai transposés pour la scène, ce sont des pièces pour une seule comédienne. Mmh. Très souvent, des monologues. Par exemple, à longueur
on
du
temps...
On dit
aujourd'hui des stand-up.
Ah non, 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 ça n'a rien à voir.
Et autrefois,
en bon
français, on dit des one-man
show. Oui, oui, non, non, ça n'a rien à voir. C'est du théâtre.
C'est du théâtre.
Le stand-up, c'est quelqu'un qui est devant un public avec un micro, puis qui raconte sa vie, qui raconte qu'il a mangé une pizza et que c'était bon. Enfin, en gros, je caricature.
Oui, oui.
Mais non, c'est vraiment du théâtre, avec une mise en scène, avec des accessoires, avec...
Et c'est souvent... des femmes dans vos pièces.
Alors,
presque toujours.
Bah, quand je suis seule en scène...
Et quand il y a des hommes, ils ne sont pas sur scène. On verra ça peut-être après.
Très souvent, mais il m'arrive de jouer à deux, et là, c'est un homme qui est en
d'accord.
face de moi.
Mais est-ce qu'il y a, comment dire, une unité dans votre œuvre, comme ça, d'avoir autant...
J'en sais rien.
Non, vous ne cherchez pas à
savoir. Je ne cherche pas l'unité, pas
une
forcément.
Une harmonisation.
Pas vraiment, non.
Non.
Je crois que l'harmonie...
Non,
mais je crois que l'harmonie, elle est dans le style. Elle est dans le style.
Voilà.
Dans le style musical, rythmé, sonore.
Voilà. Alors, on n'a pas préparé l'émission, bien
non.
sûr. Est-ce que vous connaissez les présidentes de Werner Schwab?
Non.
Ah, c'est un... C'est,
ah oui,
c'est un,
oui, oui,
un auteur
oui, oui.
Autrichien.
Ils sont
oui.
deux. Non
quatre.
Quatre
ou trois.
Moi, j'ai vu
femmes sur scène et tout. C'est terrible. C'est absolument horrible.
Moi, j'avais vu une version à deux hommes des présidents.
Non, ça, c'est les
non.
bonnes de Genève.
C'est autre chose. Non. Ça n'a rien à voir,
ça.
Voyons.
Oui, non.
Voyons.
Ouais.
Plaisantons.
Oui. Non, bon,
non, écoutez, c'est pas ça.
Non, c'était
bon.
Donc voilà.
J'ai vu des présidents avec deux comédiens. Bon.
Non,
mais c'est
les
peut-être
présidents,
une autre... les présidents, mais c'est peut-être autre chose.
Voilà. Bon, alors donc je vous ai déjà posé la question. Ouais. Comment choisissez-vous les prénoms de vos romans? Ça vient tout seul.
Oui.
Alors moi, quand même, je me suis dit, il y a un personnage qui s'appelle Lucy.
Oui.
Je ne sais plus, parce que j'ai feuilleté tous vos bouquins.
Oui, oui.
Alors je me suis dit, ah ben c'est John Lennon, Lucy in the Sky with Diamonds.
Pas du tout.
Non, pas du tout.
Non, Lucy, en fait, jusqu'à la fac, elle me ressemble. Et après, plus du tout.
Ah
j'ai
bon.
Choisi une autre voix, mais ça reste tout à fait cohérent dans l'écriture.
Oui.
Mais Lucy me ressemble.
Ben alors, quand vous êtes sorti de la fac, vous êtes devenu
oui.
prof.
Ouais.
De lettres,
ouais.
puis d'histoire aussi. Comment vous êtes
ouais.
passé de l'un à l'autre?
Bah,
vous avez
en
fait
lycée,
un CAPES d'histoire.
En lycée professionnel, on est de toute façon bivalent.
Ah oui.
Ouais, c'est comme ça. Et c'est très bien d'ailleurs.
Oui.
En Allemagne, ils sont souvent trivalents.
Oui, c'est ça. Ils sont profs de sport et profs de latin.
Exactement. J'ai un ami qui est prof de sport d'italien et de français.
Ah voilà.
En Allemagne.
D'accord.
Mmh.
Et donc vous avez enseigné donc le français.
Oui.
Alors, est-ce que c'était le prof de français qui donnait des notes à la fois de français, de grammaire et tout, de littérature, donc il y avait une autre note, de rédaction, de récitation,
non, et de latin.
Non, moi,
ça fonctionne.
Au lycée à Agno,
mais ça ne fonctionne plus comme ça. Les notes restent des notes sur 20 et on note chaque item sur tant de points.
D'accord. Et alors, qu'est-ce que vous avez aimé comme prof, de faire comme prof? C'était le contact avec les élèves ou alors...
Mais j'ai été la prof la plus heureuse du monde pendant les presque 40 ans de mon enseignement.
Vous étiez prof à Strasbourg?
À Molsheim.
À Molsheim.
Et à partir du moment où j'ai été à la retraite, à la seconde même, j'ai été la retraitée la plus heureuse du monde.
Ah ben c'est...
Il faut croire que j'ai peut-être un caractère heureux. Allez donc savoir.
Oui, oui. Et donc, vous avez...
J'ai fait énormément de théâtre avec les élèves.
Oui.
Et ça, je crois que ça a été de bons moments pour eux aussi, parce que quand je les recroise en dédicace, je les retrouve très souvent en dédicace.
Ah oui, ils me sautent au cou.
Mais ils me sautent au cou en me disant que c'était les plus belles années de notre vie. Alors là, ça m'embête un petit peu, parce que je me dis que c'est un petit peu dommage hein, si le lycée a été les plus belles années de leur vie. Moi, les plus belles années de ma vie, c'est celles que je suis en train de vivre. Eux, ils sont très souvent dans la nostalgie, dans le regret.
Ils sont très polis, ils sont très gentils.
Non, c'est pas ça. C'est pas ça.
Vous étiez une prof sévère? Vous donniez des bonnes notes?
Non, mais j'étais une prof.
Oui.
Une prof comme une prof doit être.
Voilà. Vous êtes de la génération des Lagarde et Michard ou alors?
Non, juste après.
Juste après.
Alors
moi, j'ai une nostalgie des Lagarde et Michard.
Oui, les Lagarde et Michard avaient été remplacés par les Benzon, qui étaient exactement la même chose.
Ah oui, c'est ça.
ça avait changé de nom après 68, mais ça n'avait pas beaucoup
chaque...
de...
Chaque siècle, avec toute la littérature dedans.
C'était très largement inspiré par Lagarde et Michard.
Oui.
Très largement.
Et donc, il y a un auteur avec une petite notice qui explique qui il est. Et puis
ça fonctionnait pas. De mon temps, surtout à la fin de mon enseignement, ça ne fonctionnait plus du tout pareil. Hein. On fonctionnait par thème.
Quand là, en 2025, vous discutez avec des gamins qui ont donc 14-15 ans, hein, c'était l'âge de vos élèves.
Non, ils avaient plutôt 18 ans.
Ah, 18 ans, donc c'était les terminales.
Ouais.
Ah oui, mais alors là, il n'y a plus de français, là.
Si, en lycée pro, il y a du français.
Ah oui. Et est-ce qu'ils sont aussi bons qu'à l'époque où vous étiez prof?
Non, je ne vais pas dire qu'avant c'était mieux, mais enfin bon, on ne va pas épiloguer. Hein,
oui.
On ne va pas épiloguer.
Oui. Mais on dit qu'actuellement, ils ne lisent plus, ils ont...
Mais ça, je crois que ce n'est pas tout à fait vrai. Il y a ceux qui lisent et ceux qui ne lisent pas.
C'était déjà le cas avant.
Je pense que c'était déjà le cas avant.
Oui.
Et puis, c'est très variable en fonction des catégories sociales aussi. Hein.
Oui.
Il ne faut pas se leurrer non plus.
Mais c'est aussi le prof. Moi, j'ai des souvenirs de profs enthousiasmants qui nous ont fait lire...
Oui.
Mademoiselle Verdiag, Naud, il y a des profs, Spicher, je ne sais pas s'il m'entend, ce cher prof et tout. Alors, écoutez, on est à la radio, mais je vais vous raconter une petite anecdote. Donc, c'était notre prof de français en cinquième.
Oui.
Alors, on faisait tout, latin, on faisait tout avec lui. Et on l'avait 4 heures de suite, ou 3 heures de suite, le matin. Et il nous avait dit, il y a un inspecteur qui va venir. Alors, c'était à Agneau, ce qu'on appelait le petit lycée.
Oui, oui.
Bon, dans les années 60, c'était dans des wagons. Enfin, c'était des sortes de préfabriqués. Il nous disait, il y a un inspecteur qui vient. Et il avait mis en scène le cours quand l'inspecteur, toc, 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 il rentre. Donc, Perrin, tu te lèves, tu récites ça. Youn, tu dis ça. Asman, tu dis ça. Chambon, tu répètes ça. Voilà, et tout. Donc, on avait fait... Et puis, de temps en temps, on répétait. Et je pense qu'il nous faisait le coup... Bien sûr, l'inspecteur n'est jamais venu. Il nous a fait le coup du prof qui fait, comme vous, du théâtre. Et tout. Puis, un jour, après la récré de 10 heures, il nous dit, je vais vous faire un cours de maths. Enfin, il dit rien, mais il commence à nous faire des trucs de maths au tableau et tout. Mais monsieur, qu'est-ce que vous avez dit? Tenez-vous et tout, tout. Et il nous explique, pendant une heure, un cours de maths. Nous, on est bluffés, on se demande qu'est-ce que c'est et tout. Bon, voilà. Très bien. On va à 11h, on change de classe, on avait maths, ensuite, interrogation surprise, et qu'est-ce qu'on a? Exactement ce que lui, le prof de français, nous avait expliqué. Donc forcément, on a eu tous 18 premiers échos.
Oui.
Alors, je pense que pendant la récré, en salle de prof...
Ils en avaient parlé.
Il avait vu ce que le prof de maths faisait.
Ouais.
Je suppose qu'il devait se désister et qu'il lui a fait une bonne blague. Et il nous a fait ça. Voilà. Donc ça, c'est un prof absolument formidable.
Oui, bien sûr.
Et le jeudi, il nous emmenait à vélo. Et il nous payait des Coca-Cola. Ce qui, pour nous, c'était absolument formidable. Et on s'arrêtait et il nous faisait réciter. Il nous faisait mettre à 50 mètres l'un de l'autre pour qu'on parle assez fort et qu'on s'entende.
Oui, c'est ce que je faisais avec mes élèves.
Oui, bien sûr. Formidable, ça. Mmh. Donc, effectivement, c'est les plus belles années. Enfin, on s'en souvient.
Oui, vous voyez, mais moi, il y a d'autres années après. Hein.
C'était avant mai 68.
Donc, oui, voyez, je sais bien.
Et je m'en souviens. Donc, merci les profs.
Mmh. On est bien d'accord. Moi, je ne vais pas me jeter des fleurs, mais c'est vrai que... C'est vrai qu'il y en a quand même pas mal avec qui je suis restée en contact.
En bon contact.
On est devenus amis.
Ouais. Voilà. Ouais. Alors, ça ne vous est pas encore arrivé d'avoir un prof qui... un ancien élève qui pourrait devenir votre inspecteur. Donc là, je fais un peu de la fiction.
Ça aurait pu. Enfin, moi, ce qui m'inquiète un peu, c'est que mes plus anciens élèves, ils ont 65 ans passés. Maintenant, je me dis, mon Dieu, est-ce que c'est seulement permis une chose pareille?
c'est rigolo. Bah, alors, attendez, encore une autre anecdote. Mon papa, il était prof de français. Puis à 40 ans, il avait un proviseur qui était absolument génial, M. Perrault, à Haguenau. Il lui dit, Rock, je sais que ta passion pour l'histoire, écoute, je t'arrange ton emploi du temps, tu as 3 jours de libre ou 2 jours de libre par semaine. Et mon père est allé faire sa licence d'histoire de Haguenau à Strasbourg. Donc il est là. Bon, il a passé son CAPES en mai 68. Mm-hmm. Donc il l'a eu.
Oui.
Et alors, il a eu qui comme prof? Il a eu
Un de ses anciens élèves.
Bien sûr. C'était génial. C'était génial. Bien sûr. Hein, qu'il avait eu 10 ans ou 15 ans avant. Voilà. Mmh. Donc ça, c'est des belles anecdotes.
Bien sûr.
Ça raconte. Bon. Alors, on a parlé de rien avec des anecdotes qui racontent la vie, mais c'est ça qui est beau, et de personnes. Et chez vous, le personne, il s'appelle Isidore.
Oui. Hein,
c'est votre dernière pièce de théâtre. Donc, c'est le titre de votre dernière pièce. Hein. Mais Isidore... il existe, hein, c'est un personnage, mais on ne le voit pas.
Non, il n'est pas là.
Il ne monte jamais sur scène.
Non, jamais.
Donc, c'est un personnage dans l'espace off. Mm-hmm. Voilà.
Alors... C'est une espèce de fil rouge, mais de toute façon, Isidore est très polymorphe parce que la pièce est composée de 5 duos. Donc, on est 2 sur scène, Marguerite Brousse et puis moi. Et ce sont des duos donc où ces 2 femmes, Olga la vieille et Gertrude la jeune. Bon, la vieille forcément c'est moi, hein, Gertrude la jeune c'est l'autre.
C'est un rôle de composition.
Totalement. Sont dans des relations différentes à chaque fois. Il y a une grand-mère et sa petite-fille, une vieille tante et sa nièce, 2 inconnus.
Parce que ce sont 5 sketchs différents qui se suivent.
Voilà, des scènes différentes chaque fois. Et donc Isidore est un personnage différent aussi. Ça peut être le mari qui battait sa femme, ça peut être le frère, le double d'un des personnages, hein, un petit peu schizophrène. Donc, il change à chaque fois.
Voilà, alors Joan Ott, on a vraiment envie de... Parce que ce texte, en plus, il écrit la pièce de théâtre. Donc, on peut la lire, à défaut de plus la voir. Vous allez peut-être la rejouer encore
Je ne sais pas, non, je ne pense pas.
Une reprise,
j'aimerais,
une tournée internationale jusqu'à Kiel.
New York, Paris, Pékin, ça ira très bien aussi.
Et alors, mais c'est quand même une attitude féministe de bannir les acteurs masculins.
Non, pas du tout. J'ai créé Isidore. La fois d'avant, c'était Igor. Et Igor était parfaitement... Il était totalement absent, mais je jouais avec un homme.
Voilà. Alors, Igor, donc, c'était quand un vous duo. Igor, on pense à la musique, quand même, ce prénom.
J'avais juste envie d'un prénom russe.
Bah voilà, Stravinsky, c'est ça.
Oui.
Hein, oui, donc vous avez quand même... Pas, voilà. Donc, c'est pas...
Mais c'était pour la sonorité. C'était pas du tout pour Stravinsky. C'était juste pour la sonorité. Et Isidore aussi.
D'accord. Ouais. Alors, on parle de sonorité... On est à Strasbourg, sur Radio Judaïca, Strasbourg, c'est l'alsacien.
Oui.
Et votre alsacianitude,
hein,
elle est reconnue notamment par l'Académie Rhénane.
C'est vrai aussi.
Voilà. Alors, est-ce que l'Académie Rhénane, comme on dit, c'est pour vous un lieu de complicité par rapport à cette sonorité de l'Alsace et, est-ce que vous y trouvez un petit peu cet état d'esprit
Alors ça, honnêtement, je ne saurais dire.
Bon. Alors qu'est-ce que vous faites à l'Académie Rhénane?
Mais ce que j'aime bien à l'Académie Rhénane, c'est qu'on y rencontre des tas de gens extrêmement différents, d'horizons différents. On a des lettrés, on a des scientifiques, on a des chercheurs, on a un petit peu de tout, et ça permet de rencontrer des gens d'horizons différents. Et ça, j'aime bien.
Il y a quelques semaines, nous avions invité Serge Brown. Pourquoi j'ai un trou de mémoire comme ça? Vous voyez, Aloïse. Hein.
C'est comme ça que ça commence.
Voilà. Et il est scientifique.
Oui.
Et il est aussi écrivain.
Oui.
Donc on peut faire les deux.
Oui.
Hein, voilà.
Bien sûr, on peut faire les deux.
Et donc, à l'Académie Rhénane, quand même, il y a une notion, une dimension.
De pluralité.
C'est le Rhin aussi.
Oui.
Voilà. Vous parlez allemand? Non.
Je parle beaucoup mieux l'italien.
Oui. Ah oui.
Oui.
Parce que vous avez...
D'ailleurs, dans Isidore, dans la première scène, c'est très, très italianisant. Dans la deuxième scène, c'est très alsacianisant. Et puis après, c'est très francisant.
Bon, alors, en 2026, oui. Comment s'appellera votre... Vous avez déjà le titre de votre prochaine pièce?
Aucune idée. Ça pourrait être... Alors, je ne sais pas. Peut-être que j'en ai un petit peu assez de créer des textes dont je suis imperturbablement l'auteur. Peut-être que je vais prendre autre chose. Ou alors, peut-être que je vais reprendre une vieillerie, mais vraiment une vieillerie qui a plus de 20 ans, qui n'a été vu que 3 fois en tout et qui mériterait vraiment un plus bel avenir. Et ça serait Éternité. Là, on serait 5 sur scène. Donc,
Vous n'auriez pas envie de monter Hamlet, par exemple, comme ça?
Non, je ne suis pas suffisamment shakespearienne. Je laisse ça à la compagnie Les Gens, qui font ça vraiment très, très bien.
Un autre grand texte, ou alors non,
un je Courteline, n'ai pas un envie... Fédot... Alors, Fédot, c'est très bien. D'ailleurs, au Cube Noir, on vient d'avoir un fil à la patte qui était absolument magnifique par la compagnie La Claque de Frédéric Schalk. Mais dans Fédot, il y a beaucoup de personnages. Bon, il y a quelques,
oui,
il y a quelques dialogues.
C'est
vrai qu'il y a quelques duos qui existent, mais qui ne sont pas très intéressants. Et moi, je n'ai plus du tout envie de jouer avec 15 personnes ou 20
trop
personnes.
Compliqué.
Ben, disons qu'il m'est arrivé de jouer avec 20 ou 30 personnes. Mais ça, c'était dans le temps. Et là, effectivement, il y a des choses qui ont changé.
Voilà.
Il y a eu une époque où on pouvait vraiment, vraiment faire confiance totalement aux gens. Maintenant, les gens n'ont plus exactement la même notion de langage.
Parce que c'est un petit peu quand même du théâtre amateur. Voilà. Ouais. Alors, c'était l'épisode numéro 132 de « Vous l'avez bien connu, Solarien sur tous les chemins », Johan Ott. Vous avez combien de livres en projet, là? Vous en avez pour jusqu'à,
non,
120,
là,
jusqu'à
là, je
115
suis,
ans, 120
non, là,
ans.
Je suis au 22e qui vient de paraître. Après, on verra.
Voilà.
Je
vous,
ne fais pas
vous
de plan
allez battre
sur...
Jeanne Calment
Non, je ne pense pas.
Vous ne pensez pas.
C'est pas dans mes projets.
Voilà. La semaine prochaine, nous plongerons dans un grand trou plein de rien. Et il faudra inventer ce que c'est. C'est rien et presque rien. Toutes ces vies dont on ne sait rien et qui pourtant, comme il vous plaira, le monde entier est un théâtre. Là, je reprends notre petite astuce shakespearienne. Et tous, hommes et femmes, n'en sont que les acteurs. Vous l'avez bien connu tous les mardis à 11h30 et le dimanche à midi. À la technique, Thomas Marinelli et mon nom est Ambroise Perrin.